souhaite...
Et Mulhouse qui a ouvert le score dans le deuxième tiers-temps.
Très bien. Donc on vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Bigarré, vous avez dit bigarré, comme c'est bigarré. Il fallait bien que ça arrive un beau jour ou peut-être une nuit. À force de vous imaginer nous écoutant paisiblement installés dans un fauteuil, la lumière tamisée, un verre d'on ne sait quoi à portée de main pendant que nous déblatérions, eh bien, ça nous a donné soif. Nous voici réunis au Bigarré à Brissac-Quincé, en bonne mais noire compagnie, pour vivre un drôle de drame. Car, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est polarisez-vous. Ça dure un mois, ça cause, ça chante, ça théâtralise, ça écrit, ça dessine, tout ça à la sauce polar. Avec nous aujourd'hui, Claudie Le Turdu, Massimo Rossi, Frédéric Brogard et Dominique Delahaye. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
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 À événements particuliers, émissions particulières, Linda et Toups ne sont pas vraiment là. Luc est fidèle au poste technique et votre serviteur zélé Julien est à l'animation. C'est maintenant l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Générique. Qu'un petit air de tango pour se remettre en forme. Vous aurez peut-être reconnu la Revancha del Tango des Gotan Project. Je voudrais tout d'abord remercier donc Maggie et Marion de nous accueillir dans ce lieu atypique. Ah non, on n'aime pas atypique, s'il ne fallait pas dire atypique. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit foisonnant et protéiforme. Il faut bien dire à nos auditeurs que nous sommes dans un lieu où il y a un baby-foot. Actuellement, la table de la radio est installée sur un billard et il y a une pompe à essence derrière moi, ce qui, ma foi, est fort surprenant. Et puis, si je me tourne, il y a du public quand même. Bonsoir, public. Des proches disaient « Public adoré, mon amour ». Non, on va s'arrêter là. Vous aimez les voyages ? Je vous propose aujourd'hui deux destinations. Tout d'abord, l'Argentine de Martin Caparrós, d'où le tango. L'intrigue du roman « Tout pour la patrie » se déroule à Buenos Aires en 1931. On est dans les prémices de la professionnalisation du football. Bernabé Ferreira, la star du club de River Plate a mystérieusement disparu. Plus tard, on apprendra la mort d'une jeune fille chez elle. Suicide annoncé, puis démenti de circonstances. On ne rigole pas chez les catholiques. Les deux pistes vont finir par se recouper. Alors, évidemment, l'auteur nous emmène enquêter avec son narrateur, une espèce d'homme sans le sou, plutôt intègre, amoureux fou d'une Russe libertine, et lui écrit des tangos comme nous avons pu écrire des poèmes comme nous étions jeunes. Tu en as écrit, Dominique, des poèmes quand tu étais jeune ?
Pas tellement, non.
Pas tellement, non. Mais un jour, tu auras le réflexe de prendre ton micro quand on posera la question.
Pas tellement, non. Je suis pas très... J'écris pas beaucoup de poèmes. Des chansons, parfois, mais...
Des chansons. Du tango ? Non.
Du mambo.
Du mambo. Alors, l'auteur nous trimballe des bas-fonds de Buenos Aires aux abattoirs tenus par la pègre, en passant par les résidences bourgeoises d'où rien ne filtre. Voilà, on est donc trimballé cas à cas à la poursuite d'une vérité sur fond de nombreuses compromissions. L'auteur a une jolie plume, la reconstitution historique bat son plein et l'on s'amuse des contraintes des appels téléphoniques qui ont leur importance. Vous savez, ces appels où on vous dit on vous appelle de Pétaouchnok, rendez-vous dans 10 minutes. Voilà, c'est ça qu'on a dans ce livre. La vérité, comme toujours, dans le roman noir, aura un goût amer. Et d'ailleurs, il se conclut d'un à suivre qui laisse augurer d'autres lectures plaisantes. Mais quittons la littérature négra et criminale pour l'Italie et son giallo. C'est drôle quand on y pense. Il n'y a pas que les Anglais pour ne rien faire comme les autres. Vous savez tous qu'on dit dans tous les pays du monde ananas, ananas. Les Anglais disent pineapple. C'est étrange, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, quand on cause littérature policière, dans le monde entier, on parle de littérature noire, de littérature criminelle, de littérature donc policière. En Italie, eh ben, on dit giallo, qui veut dire jaune. On ne sait pas pourquoi. En Italie, le polar est avant tout question de région, voire de ville. Chez Angelo Petrella, la ville, c'est Naples, Napoli. On me murmure à l'oreille qu'un certain footballeur argentin y a fait des miracles dans les années 80. Là, pas de footballeur. Une femme, riche, est retrouvée chez elle, morte. Suicide ou assassinat ? Ça me rappelle une autre intrigue. L'enquêteur Carbone est un homme gris. Il ressasse sans cesse son ancienne histoire d'amour. Il entretient méticuleusement sa cirrhose du foie, comme un peu tous les enquêteurs. Et surtout, il utilise des moyens pour enquêter qui sont toujours à la limite de la légalité. Enfin bon, quand je parle de limite de la légalité, je parle de la mauvaise limite de la légalité. Il est derrière, lui. Le voilà contraint de faire équipe avec un commissaire qu'il a précédemment chargé dans une autre sombre affaire. Et puis, les deux hommes vont se retrouver au cœur d'un maelstrom généré par les services secrets italiens. Bon, Fragile et la nuit est un roman hard-boiled du nom de ce genre qui proposait des durs à cuire en lutte contre la gangrène qu'est la corruption chez les politiques. C'est surtout un roman noir urbain sur la ville de Naples qui se lit d'une traite. Alors, saurez-vous faire votre choix entre l'Argentine et l'Italie ? Tout pour la patrie, Martine Caparros chez Buchet-Chastel, et Fragile et la nuit d'Angelo Petrella chez Philippe Rey. Vous écoutez Calibre 58 sur le 101.5 FM et maintenant Linda a un petit message à nous faire passer de sa voix posée.
Je vais vous parler de la voix comme témoignage, les traces qu'elle laisse. Pour ça, je vais vous parler d'un livre magnifique de Valeria Luiselli, Archives des enfants perdus. C'est aux éditions de l'Olivier. C'est l'histoire d'une famille. Un père, une mère, deux enfants nés d'union précédente. Le père et la mère sont écrivains. Ils se sont rencontrés lors d'un projet où ils enregistraient les sons de New York, de toutes les langues parlées dans cette ville. Plus de 200. C'est l'histoire d'un voyage. La famille prend la route, direction le sud des États-Unis. Le père entreprend un travail sur les Apaches et veut se rendre sur place. La mère, elle, veut voir de ses yeux la réalité de ce qu'on appelle à tort la crise migratoire, touchant les enfants sud-américains. À l'intérieur de la voiture, le bruit du monde leur parvient via la radio. C'est l'histoire d'un pays, d'un continent, de ces enfants perdus voyageant sur les toits des trains, des numéros de téléphone brodés sur leurs vêtements, des paysages traversés et des territoires marqués par la chronologie, les guerres, les conquêtes. C'est l'histoire d'un western du présent, où les cow-boys sont toujours armés et pas plus futés, et ne restent des Indiens décimés que l'écho de leurs fantômes. C'est l'histoire enfin d'une tentative. Comment garder la trace? Les deux enfants de la famille, un garçon de 10 ans, une fille de 5 ans. Les extraits que je vais lire sont les mots du garçon qui parle à sa petite sœur. Pas longtemps après le début du voyage, à part faire en sorte que le coffre soit bien rangé et impeccable, j'ai su que ma mission consistait à conserver des traces, prendre des photos de tout ce qui était important. Les premières photos sont sorties blanches et ça m'a frustrée. Puis j'ai étudié le mode d'emploi et j'ai fini par apprendre. Les professionnels doivent faire ce genre de choses, ça s'appelle tâtonner. Mais pendant un certain temps, après avoir appris comment marchait l'appareil, je ne savais toujours pas quoi prendre en photo. Je ne savais pas trop ce qui était important, ce qui ne l'était pas. Pendant un moment, j'ai pris plein de photos de plein de choses, sans projet, sans rien. Mais un jour, alors que tu dormais et que moi je faisais semblant de dormir, alors qu'en fait j'écoutais maman et papa se disputer à propos de la radio, à propos de politique, à propos du travail, à propos de leur projet d'avenir ensemble et ensuite pas ensemble, à propos de nous, à propos d'eux et tout. J'ai eu une idée. Et voilà l'idée. J'allais devenir documentariste et documentaire. Je pouvais être les deux, pendant un certain temps, du moins pendant ce voyage. Parce que je comprenais, même si papa et maman ne s'en doutaient pas, que c'était notre dernier voyage ensemble, en tant que famille. Je savais aussi que tu ne te souviendrais pas de ce voyage parce que tu n'as que 5 ans et que notre pédiatre avait dit que les enfants ne commençaient à garder des souvenirs, des choses, qu'après l'âge de 6 ans. Quand j'ai compris ça, je me suis dit « Putain !» Ah bien sûr, je ne l'ai pas dit à haute voix. J'ai juste pensé « Putain !» en silence, pour moi. Je me suis rendu compte que moi, je me souviendrais de tout et que toi, peut-être, tu ne te souviendrais de rien. Il fallait que je trouve un moyen de t'aider à te souvenir, même si c'était juste par l'intermédiaire de choses que je documenterais pour toi, pour l'avenir. Et c'est comme ça que je suis devenue à la fois documentariste et documentaire. J'ai envisagé de noter des trucs que tu lirais un jour, mais tu lis mal. T'es encore au niveau A ou B, et tu lis encore tout à l'envers ou n'importe comment. Je sais pas du tout quand tu sauras lire, enfin lire correctement, si ça arrive un jour. Alors j'ai décidé d'enregistrer du son à la place. Et puis aussi écrire, c'est plus lent, et lire, c'est plus lent. Mais en même temps, écouter, c'est plus lent que regarder, ce qui est une contradiction difficile à expliquer. Enfin bref, j'ai décidé d'enregistrer ce qui était plus rapide, même si les choses lentes ne me dérangent pas. Ne perds pas cette bande, ni la boîte avec les photos. Tu m'entends, Major Tom? Ne perds rien, parce que j'ai tendance à toujours tout perdre. Ici, Ground Control, est-ce que vous m'entendez? Mettez votre casque maintenant. Et n'oubliez pas de compter. 10, 9, 8, début du compte à rebours, allumage des moteurs, vérification de l'allumage, 7, 6, 5, 4, 3, et maintenant, Moonwalk, on marche sur les mains. Ici, Ground Control, est-ce que vous m'entendez? Tu te souviens de cette chanson et de notre jeu? Après le Moonwalk, il y a notre passage préféré. Ici, Ground Control, to Major Tom.
This is Ground Control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know who shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to Ground Control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. In a tin can. Far
Et oui, c'était la chronique de Linda. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités qui se morfondent et se demandent pourquoi donc ils sont là vu qu'ils causent pas, nous allons vous rappeler que vous êtes bien sur le 101.5 FM sur Radio G, que nous sommes en direct pour l'instant du Bigarré en compagnie de Maggie et Marion qui nous ont accueillis. Nolwenn n'est pas très loin, elle nous causera tout à l'heure des prochaines manifestations qui vont se dérouler à Brissac pendant tout ce long mois de mars, d'ailleurs puisque ça finira le 4 avril de mémoire, donc un mois de mars très très long. On aura peut-être une Nolwenn totalement lessivée à la fin, on ne sait jamais. Voilà, nous allons parler de bande dessinée cette semaine et nous avons donc deux bandes dessinées qui ont attiré notre attention. Tropique de la violence de Gaël Henry chez Sarbacane et qui est une adaptation d'un roman de Natacha Apana, et ainsi que Opération Copperhead de Jean Arambat, qui est une bande dessinée d'espionnage très cultivée. On peut peut-être les faire passer dans le public, comme ça au moins ils verront quelques images, ils auront une idée. Luc, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Et d'abord, elle parle de quoi, ces bandes dessinées?
Parce que tu me demandes de faire un exercice un peu compliqué, s'il faut que je dise les deux choses en même temps, je vais avoir du mal. Donc on commence par un premier et puis après on finit par la deuxième.
D'accord.
Super, donc tu me proposes de commencer par qui?
Tropique de la violence.
Va pour Tropique de la violence. Bien, Tropique de la violence, c'est l'histoire de Moïse, un enfant noir de Mayotte, abandonné par sa mère parce qu'il a les yeux verrons. Il a, comme David Bowie, que nous venons d'entendre, signe de malédiction à Mayotte, et il a été adopté, abandonné par sa mère, adopté par Marie, une infirmière. En découvrant son origine et à la mort de sa mère, la mort qui est due à une rupture d'anévrisme, il va s'acoquiner avec une bande de voyous du quartier de Gaza. C'est une des banlieues de Mamoudzou. On va suivre son parcours par le regard des différents protagonistes, y compris d'ailleurs le chien de Moïse, et même des fantômes des personnages, jusqu'à la rédemption du héros. Ai-je bien résumé ?
Parfaitement.
Hein, ça t'étonne, hein ?
Pas du tout, c'est pour ça que je te le demande d'ailleurs, figure-toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette bande dessinée ?
Tu me demandes de faire deux choses, résumer et penser en plus. Donc je vais penser. Non, moi j'ai trouvé cette bande dessinée extrêmement, d'abord très brillante. Très brillante parce qu'elle raconte une histoire compliquée, une histoire délicate, une histoire de rédemption. C'est toujours compliqué les histoires de rédemption, c'est-à-dire comment quelqu'un qui passe du bien au mal au bien, il faut arriver à trouver la bonne dimension. Et je pense que là, Gaël Henry, j'ai pas lu le roman, donc moi je n'ai que la BD, Gaël Henry a fait un travail qui est très très intéressant graphiquement. C'est un dessin très étrange, un peu brutal, très coloré, mais il arrive à faire passer la vie de ce personnage, à nous faire vivre ce personnage complètement. On est pris dans ses émotions et on est pris aussi dans ses dilemmes moraux, c'est-à-dire quand il est avec la bande de voyous, quand il y est plus, quand il se fait le maltraiter, on est toujours avec lui, toujours pris dans ses émotions. Et c'est vraiment quelque chose enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle bande dessinée.
Oui, et puis il y a tout ce côté sur la violence insulaire, alors qu'on retrouve aussi, alors moi non plus, figurez-vous, je n'ai pas lu le roman de Natacha Apanache, Plaide coupable. En revanche, cette bande dessinée me fait penser à deux autres ouvrages, à deux autres auteurs. Une, c'est Yannick Lahens, qui écrit sur Haïti, et la violence endémique à Haïti semble être la même que celle de Mayotte, avec exactement les mêmes problématiques. Et puis, il y a un petit côté comme ça, violence gentille, parce que ça se alors que c'est une violence violente, et c'est celle qu'on retrouve aussi chez Alain Mabankou dans Petit Piment, où c'est-à-dire que ça nous apparaît pas méchant, parce que c'est des bandes, ils commettent des petits trucs, et puis tout d'un coup il y a une violence qui se déchaîne et il y a des choses qui apparaissent. Là par exemple, la violence elle est tout sauf gratuite. Le chien, il va disparaître très vite. Oui. Et on va voir que la bande a des vues pour Moïse qui ne sont pas celles que lui attend. Voilà. Mm-hmm. Donc
il faut rappeler que cette histoire se passe en France, à Mayotte, le 101e département français et que la vie à Mayotte est loin, loin, loin d'être joyeuse. Et c'est la France.
Eh oui. C'est, comment est-ce qu'on peut rebondir sur ce que tu viens de dire là ? Parce que tout d'un coup, tu viens de casser l'ambiance.
Eh bien, on saute à pieds joints dans l'opération Copperhead.
Sautons à pieds joints dans l'opération Copperhead de Jean Aramba, un auteur qui est beaucoup plus bavard que Gaël Henry, beaucoup plus, alors je ne sais pas s'il est beaucoup plus lettré, mais sa bande dessinée l'est beaucoup plus précise, puisqu'elle va se focaliser sur des extraits de journaux, notamment de David Niven et de cet acteur qui interprète Hercule Poirot et qui se nomme
Peter Ustinov.
Peter Ustinov.
J'ai écrit là.
Tu l'as écrit là, c'est très bien. C'est une bande dessinée d'espionnage. Oui. En quoi est-ce que c'est une bande dessinée d'espionnage ?
Tu veux vraiment... Tu me demandes mon avis ?
Ouais.
En rien.
En mince.
Rien. En rien. C'est une bande dessinée qui raconte une histoire vraie, deux histoires vraies, c'est-à-dire, d'une part, le tournage d'un film par les Anglais, un film de propagande à la gloire des Anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'utilisation d'une doublure pour le général Montgomery pour leurrer les Allemands, leur faire croire que Montgomery était ailleurs, alors que Montgomery préparait l'opération Overlord, c'est-à-dire le débarquement en Normandie. Et quand je dis que je me permets de dire, que je m'autorise même à dire que ça n'a rien à voir avec l'espionnage, c'est que moi je préférerais 100 fois, je vois pas ce que cette BD apporte à l'histoire. Elle met des images dessus, mais je préférerais diablement plus un roman de Graham Greene ou un roman de Robert Little qui va nous raconter quelque chose, qui va nous emporter dans l'imaginaire. Là, moi, j'ai pas rêvé. En fait, voilà. Je te dis ça brutalement. Hein,
mais il faut savoir que dans toute émission, Luc, il y a une BD que moi j'adore et qu'il déteste. Ça, c'est les lois de la contradiction. Moi, ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée, c'est...
Oui, dis-moi ce que tu as aimé en fait dans cette BD.
Alors... Déjà, c'est l'exercice de style, parce que Jean Aramba fait un exercice de style. C'est-à-dire qu'il s'est donné pour mission de faire une bande dessinée d'espionnage, puis plus tard, avec le Detection Club, une bande dessinée de romans de mystère, avant enfin d'essayer de faire un thriller. Là-dessus, il prend une histoire qui, moi, je trouve fantastique. C'est-à-dire, on va chercher sur le front, on va chercher.
L'histoire est géniale, oui.
On va chercher d'abord David Niven. Enfin, oui. Je ne sais pas si vous voyez qui est David Niven, le mec so-british. Enfin, s'il y a un Anglais incarné, c'est David Niven. David Niven est à l'Angleterre, ce que Sean Connery est à l'Écosse. Enfin,
son seul problème, c'est avec son coup de temps en temps quand il fait ça.
Ah oui, ça, c'est, ouais, mais ça c'est que quand il voit Bourville, non ? Il a ce genre de problème-là. Mais la rencontre avec Peter Ustinov, je la trouve formidable. Et surtout, il y a ce truc où ils font miroiter à un acteur de seconde zone de théâtre qui va avoir un rôle dans un film, alors que son seul talent, c'est de ressembler à peu près à Montgomery. Il n'a pas le phrasé, il n'est pas tout à fait de la même taille, donc il va falloir lui apprendre à parler.
Il a les oreilles décollées.
Il a les oreilles décollées. Mais ça, moi, je ne dis rien contre les oreilles décollées. Étrangement, je ne dis rien contre ça.
Non, mais ça lui fait une ressemblance avec Montgomery. Et il va falloir que tu termines parce qu'on est en train de dépasser
le temps. Oui,
mais,
oui.
Mais ça m'arrange que tu raccourcisses parce que de toute façon,
d'accord,
je suis convaincu que ce n'est pas terrible.
Donc... Tropique de la violence de Gaël Henry chez Sarbacane, vous aurez compris que c'était le choix de Luc. Opération Copperhead de Jean Aramba, moi j'aime beaucoup quand même, c'est chez Dargo. Vous êtes bien sur Radio G sur le 101.5 FM et maintenant un tout petit intermède musical avant d'entrer enfin dans le vif du sujet avec nos invités.
Billy's songs I laid off the record, which I think is a wonderful song. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I will see you in my dream. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take Grand Ocean, jump in the river and drown. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. Stop rambling, stop gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family and stay by the fireside bright. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream.
Nous écoutions un extrait de Mississippi, John Hurt, Good Night Irene. Moi j'aime le blues, je suis désolé pour vous. Entrons donc dans le vif du sujet avec nos invités, Claudie Leturdu, Massimo Rossi, Frédéric Brogard et Dominique Delahaye. Est-ce que vous pouvez vous présenter, d'abord nous dire qui vous êtes exactement? Petit tour de table.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Tout, mais en 30 secondes.
Alors, je m'appelle Frédéric Brogard, je suis illustrateur. J'habite dans une petite commune qui s'appelle Feneux, pas très loin de Brissac. Et je me suis lancé depuis quelques temps dans ce métier d'illustrateur.
D'accord, nous reparlerons de ces illustrations parce qu'il me semble qu'elles sont très angevines, ces illustrations.
Oui, j'ai commencé par un livre tourné sur l'histoire de l'Anjou.
D'accord.
Moi c'est Massimo, je suis pas encore majeur, donc je suis au lycée en études littéraires et je suis aussi au conservatoire d'Angers en théâtre.
D'accord. Voilà. Et en théâtre ça consiste en quoi? Quel genre de théâtre?
Au conservatoire c'est plutôt classique, par exemple là on travaille Don Juan.
D'accord.
Mais en général j'aime tout faire donc...
Ça va de Ionesco à Tardieu en passant.
Exactement.
D'accord. On parlera d'un mot pour un autre peut-être plus tard.
Moi je m'appelle donc Dominique Delahaye. Il y a bien trop longtemps que je suis majeur. Et j'écris des romans policiers, enfin des romans noirs plus exactement, pour la jeunesse et pour les adultes. Des scénarios de BD, diverses choses. Et je suis musicien de jazz par ailleurs.
Avec une faiblesse à ne prononcer pour Art Pepper, si je m'abuse.
Exactement, une grande, grande admiration pour Art Pepper.
D'accord.
Moi, c'est Claudie. Je suis comédienne amateur. Je ne suis pas du tout dans le métier, mais voilà, ça fait quelques années que j'en fais. Et voilà, ça me plaît bien. Ça me permet d'extérioriser des choses. Voilà, c'est...
Et qu'est-ce que vous venez extérioriser à Brissac?
Eh bien, je ne sais pas. La peur du polar. Non, alors qu'est-ce que j'ai peur de cette histoire de jouer à Brissac ce soir? C'est plus, voilà, on m'a appelé, j'ai dit oui et on y va, quoi. J'ai écrit.
D'accord.
Voilà. Donc Massimo m'a aidé pour la mise en scène parce qu'il est un peu plus doué que moi, mais voilà.
D'accord, donc l'écriture, c'est vous?
L'écriture, c'est moi.
Et donc la mise en scène, c'est vous deux avec, une prépondérance de Massimo.
Exactement.
D'accord. Et alors, c'est quoi cette histoire?
C'est une sombre histoire. Vraiment très très sombre.
On a allumé les lumières.
Auquel on a voulu ajouter un peu de paillettes pour que ce soit très familial. L'histoire, c'est que dans un petit village, il y a des colis qui disparaissent et que l'inspecteur Le Vdur... vient
et lui dit retrouver ses colis
et trouver le coupable,
mener l'enquête.
C'est ça.
comment une histoire peut être sombre avec un inspecteur qui a un nom aussi œuf dur?
Alors c'est moi qui ai créé le personnage au tout début sans jamais savoir que ça allait être théâtralisé. Parce qu'au début, c'est un simple livre de jeux mélangeant coloriage et petite intrigue sous forme de bande dessinée. Et on a pris le parti pris voilà, de mettre ça sous forme d'une petite pièce de théâtre amusante. Donc, c'était pas du tout prévu comme ça. Donc, on a essayé quand même de s'attacher au mois du polar. Donc, je vais pas en dévoiler plus. Mais en tout cas, il y a une enquête policière. C'est ce qui nous rattache, je pense, à ce mois du polar.
Vous avez fait comme à Pâques, vous avez repeint l'œuf pour qu'il corresponde un petit peu à la couleur du mois du polar.
Exactement.
D'accord. C'est quoi les problèmes de la mise en scène? C'était la première fois?
Que je mets en scène?
Ouais.
Non, pas du tout.
Bah, je sais pas, vous êtes mineur, donc...
Ouais, mais ça fait plusieurs années que je fais du théâtre quand même, donc j'ai eu l'occasion d'en faire. Puis comme j'aime bien la direction... Il n'y a aucun problème pour moi, quoi.
Il n'est pas facile.
Oh, non, si, je suis agréable quand même. Je ne suis pas méchant.
Et surtout, on est parti de zéro, en fait, parce que mon livre, au début, il n'en reste que le personnage, finalement.
Ouais, c'est
donc,
ça.
On est vraiment parti sur de zéro. Donc,
en fait,
on peut tout se permettre.
En scène, c'est de mettre en vie ce qu'on a dans les pages, quoi. Donc, il faut beaucoup s'inspirer de ce qu'a fait Fred pour les mettre en scène. Donc c'est pas très compliqué en soi.
Adapter, c'est forcément trahir, du coup.
Wow, la question.
Ah ben ça,
la question
ici on rigole pas avec les questions. Hein.
Bah en tout cas, ce qui est d'ici, je pense pas que c'est trahir. Enfin Fred, c'est pas trahir.
Non, pas du tout.
En même temps, comme c'est la première fois qu'il est joué, il y a pas trop de comparaison non plus.
Ouais.
C'est voilà, et on n'est pas sur Tintin pour l'instant.
Ça ressemblait un peu à un petit tacle quand même, si je peux me permettre. Hein. Oui. Vu que c'est la première fois qu'on le jouait, tout ça.
Il sera forcément bon.
Quel regard vous portez sur la datation justement?
L'adaptation
non trahison. Enfin.
Très satisfait parce qu'en fait c'est juste. C'est l'adaptation de mon personnage sous une forme physique réelle. Donc je trouve que Massimo s'en sort plutôt bien, hormis la moustache. Ouais. Mais ça, on va vite y remédier.
Qu'est-ce qu'elle a, cette moustache?
L'inspecteur L'œuf dur a une moustache très foisonnante. Et seules les personnes qui peuvent nous voir ce soir verront que Massimo Mineur n'a pas encore
cette moustache.
Ouais, il va falloir patienter encore quelques années, voire décennies. Ouais. Hein.
Pour atteindre celle de Philippe Martinez.
C'est ça, ou d'Hercule Poirot, on ne sait pas.
Voilà. C'est un peu une inspiration, Sherlock Holmes et Hercule Poirot.
On a dit qu'on parlait pas.
D'accord, oui, on a dit qu'on ne parle surtout pas de politique.
C'est du syndicat, monsieur, c'est du syndicat.
Surtout pas à Brissac. Mais on me dit que cette théâtralisation est aussi illustrée. Alors, ça veut dire quoi?
Alors là, c'est tout nouveau parce qu'on va tenter quelque chose ce soir, hein, même si ça a déjà été plusieurs fois. Essayer pour s'entraîner. Pendant que la pièce de théâtre va se dérouler, je vais dessiner en live sur mon ordinateur et ça sera reproduit sur un rétroprojecteur. Et donc le public pourra, en même temps qu'il voit la scène, il me verra dessiner en même temps. Et ce seront des moments et des éléments qui seront en corrélation avec l'histoire, en fait.
C'est des choses qu'on découvre de plus en plus dans les salons. On va en parler avec Dominique, et donc une lecture musicale, mais les lectures dessinées aussi, ce sont des choses qu'on voit apparaître. On a besoin aujourd'hui de cette interactivité avec le public. Qu'est-ce qu'elle apporte?
On a déjà ça un peu dans le journalisme, où on avait à l'époque Cabu qui faisait souvent ça. Hein. Donc là, je pense que je m'en suis inspiré inconsciemment. Parce que je l'ai déjà vu au Club Dorothée, à l'époque. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on essaye de trouver des choses
au
qui font...
Au Club Dorothée ou dans Récré à deux? Parce que c'est...
Ah là là.
On essaye d'être précis dans cette émission, monsieur.
C'était le Club Dorothée, j'en suis sûr.
Donc c'était sur TF1, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Désolé, Massimo, tu dois pas savoir de quoi on parle, là.
Ouais, le Club Dorothée, quand même.
En tout cas, oui, aujourd'hui, je pense qu'on essaye de chercher à apporter quelque chose d'un peu différent pour se démarquer et puis pour que le public il ait une vision des choses un peu plus moderne, hein, peut-être.
puis la lecture c'est quand même une aventure assez solitaire, donc dès qu'on peut la partager tous ensemble, ça fait du bien quoi.
Ça fait du bien de la partager, cette lecture ?
Oui, ça va être très sympa, je pense, comme expérience.
Lecture musicale, ça te cause, Dominique ?
Bah oui, ça, c'est une manière de présenter, de défendre les livres qu'on a utilisés à propos de ce recueil de nouvelles, mais qu'on avait déjà travaillé avec des musiciens de la compilation Polaroid Rock, qui doit te dire quelque chose, au Havre.
Un truc du côté des encres noires.
Exactement.
Avec voilà. Des auteurs de polar qui écrivent des textes, voilà. Qui sont mis voilà. En musique. Par
et pour en revenir au Mambo dont j'ai composé la musique, les paroles étaient de Jean-Jacques Rebout.
D'accord.
Voilà.
Jacques Rebout, l'ancien postier fou.
C'est exactement.
D'accord.
Plus postier, mais toujours fou.
Bien, les histoires de famille sont terminées, on peut continuer.
Parlons de ce livre, hommage à Art Pepper, No Limit. Est-ce que tu peux raconter la genèse de cet ouvrage ?
En fait, j'ai été fasciné par ce personnage. J'ai rencontré sa musique pas directement parce que je m'intéressais à Chet Baker, qui est un fabuleux trompettiste, et Art Pepper a enregistré pas mal d'albums avec lui, et c'est par lui que j'ai découvert Art Pepper. Et ensuite, j'ai découvert son autobiographie qu'il a écrit à quatre mains avec sa femme Laurie, qui s'appelle Straight Life. Et qui est un livre prodigieux, qui a été classé par de nombreux romanciers noirs américains comme un des plus grands romans noirs américains du XXe siècle.
Qu'est-ce que tu entends par roman noir américain ?
C'est-à-dire que on retrouve dans son livre, et c'est pas un auteur, ni lui ni sa femme, mais on retrouve la caractéristique de l'écriture des grands romanciers noirs américains, c'est-à-dire un style très dégraissé, et puis une manière incroyablement directe de livrer les émotions, une franchise, je sais pas quel mot, une honnêteté, une sincérité, un langage extrêmement... moi je trouve qu'il y a des passages dans ce bouquin qui sont bouleversants. On a toujours l'impression qu'on est dans la fiction alors qu'on est dans la réalité de sa vie à lui, et ce qui fait de cette autobiographie et de son personnage à lui à la fois un personnage de roman noir et un acteur de la scène jazz. Et il a rencontré aussi, pour l'anecdote, il a travaillé aussi avec des scénaristes de romans noirs, puisque pour ceux qui se souviennent de la série des Dirty Harry dans lequel joue Clint Eastwood à l'époque où il est encore un gros beauf avec un gros flingue, avant d'être encensé par Télérama, je veux dire. Et
rassure-toi, il est redevenu un gros beauf.
Le deuxième de la série.
Un réalisateur, je tiens.
Ouais, il a des périodes un peu compliquées. Et le deuxième de la série, le thème de la musique du film est joué par Art Pepper en sax. Voilà. Donc c'est ce qui nous a intéressé, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui était au carrefour entre le jazz et le roman noir.
C'est étonnant chez les musiciens et les chanteurs de jazz ce carrefour, parce qu'on a l'impression qu'ils le sont tous, quoi, quasiment.
Ce sont deux genres qui sont nés à peu près au même moment aux États-Unis pour exprimer à leur manière les vibrations de la ville, ces difficultés à vivre pour beaucoup de gens qui habitaient dans les downtown, dans les bas quartiers américains, quoi. Et leurs sources d'inspiration sont communes. La manière dont ils ont été considérés aussi, puisque le jazz à ses origines a grandi à l'ombre un peu des gangsters, hein, dans les speakeasy au moment de la prohibition. Et donc, les musiciens de jazz vont garder avec eux une aura un peu sulfureuse. Et puis le jazz sera toujours considéré comme une sous-musique jusqu'à il y a encore pas très longtemps, de la même manière que la littérature noire a été considérée comme une littérature de gare.
Oui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, que les éditeurs se sont rendus compte que ça vendait, bizarrement. Oui,
il n'empêche que, à part Pierre Lemaitre, le Goncourt n'a jamais été attribué à un vrai roman noir ou à un vrai polar, quoi.
Mais le Goncourt, ça ne veut pas dire grand-chose.
Non, mais pour dire là, je veux dire simplement qu'il y a encore une catégorie à part, quoi, pour la littérature noire, alors que justement, Pierre Lemaitre a fait la démonstration qu'un grand roman noir, c'est un grand roman, point.
Voilà. Moi, je voulais juste dire pour le public qui est là et qui nous écoute que le Goncourt ne récompense absolument pas un bon livre. Le Goncourt récompense un livre qui est lisible par le plus grand nombre. Donc, et avec quelques erreurs par le passé, Alors des erreurs, d'abord, un, parce que le livre pouvait être incompréhensible par le plus grand nombre, ou deux, parce qu'il était beaucoup trop petit. Je pense au Éric Vuillard qui était sorti il y a quelques années, qui avait eu le concours. Une erreur sans nom, un livre à 14 euros, qu'est-ce que vous dites que ça rapporte? Ça rapporte pas grand-chose. Donc on est repassé au format à 600 pages, qui coûte 24 euros, mais qui se lise très bien. Voilà.
Julien, j'attire ton attention, on a dit pas de politique, hein.
C'était pas du tout politique. J'ai vu que dans cet hommage à un paper No Limit, il y avait un disque à la fin. C'est quoi ce disque?
Et alors l'idée, on est parti de 12 titres d'Art Pepper, 12 compositions qu'on a choisies dans sa discographie, sur à peu près toute l'étendue de sa carrière en termes de dates. Et j'ai d'abord demandé à 12 auteurs de romans noirs, 6 hommes et 6 femmes, d'écrire une nouvelle en partant de ce titre, laissant aller leur imagination, avec comme seule contrainte que ça soit dans l'univers du jazz, et puis que l'histoire se passe l'année où le titre a été enregistré pour la première fois. Ça, c'était la contrainte. Donc on a des gens comme Jean-Bernard Pouilly, Marc Villard, Patrick Péchereau, Laurence Bieberfeld, Dominique Sylvain, etc.
Voilà. Des gens qui savent pas écrire.
Pardon ?
Des gens qui ne savent pas écrire.
C'est
quoi.
Ça.
D'accord.
Et ensuite, on a confié ces nouvelles magnifiques à des dessinateurs de BD. Donc, on a aussi une très belle brochette de dessinateurs. Et pour finir, nous, on a réenregistré ces 12 titres. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur les arrangements de ces compositions, je me suis vite rendu compte que si on essayait de rester dans l'esthétique qui était celle d'Art Pepper, c'est-à-dire en gros le quartet, piano, contrebasse, batterie et sax, on se heurtait à des versions qui étaient absolument indépassables dans le genre, et qu'il fallait à tout prix qu'on se décale pour ne pas avoir à souffrir d'une forme de comparaison, on va dire. Et puis, Art Pepper étant quelqu'un qui, dans sa carrière, a toujours expérimenté beaucoup de choses, je me suis dit que finalement, le fait qu'il y ait des ordinateurs, des boucles, des samples, etc., ne l'aurait certainement pas gêné. Donc on a décalé ça vers une esthétique un peu électro. J'ai récupéré des parties de son autobiographie pour en faire des chansons, ou des textes de slam qui sont chantés ou dits par Marc Minelli, un chanteur. Et puis, l'ensemble a été réorchestré sur un mode électro, quoi. Voilà.
D'accord. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas simplifié la vie en faisant ça. Je trouve ça formidable de faire un projet qui est monté de A à Z. Et c'est peut-être ce qui vous rapproche tous les quatre. C'est-à-dire, le dessin vient compliquer quelque chose. On vient compliquer une performance. Déjà, j'imagine que faire du théâtre, c'est pas anodin. Rajouter le dessinateur, même si on a dit Cabu l'a déjà fait. Et je me rappelle avoir vu Cabu lors d'un concert des Têtes Nègres, Têtes Raides, où il faisait aussi ce genre de choses. On a un peu d'appréhension avant de dessiner comme ça en direct.
Oui et non. Oui, parce que je suis de nature stressée, mais sinon, on va dire que je vais improviser moi aussi comme quelqu'un qui joue une pièce de théâtre, parce que le dessin, c'est pour moi comme c'est une seconde nature. Donc on arrive toujours à ne pas se tromper au bon moment.
Voilà. Et on est là pour ajouter des moustaches à Massimo ou pour faire autre chose?
On peut lui rajouter plein de choses. Pour donner un petit peu de peps, pour agrémenter la pièce de théâtre. Ça sera au public de voir s'il aime.
Et est-ce qu'on peut, à l'inverse, rajouter des contraintes au dessinateur pendant la pièce?
Bien sûr.
Le genre,
et on s'en
nature,
est
il est de nature timide, donc je vais venir improviser avec lui. Et
voilà, c'était pas prévu.
Voilà.
Et dans l'écriture, on a fait exprès de choisir des choses très compliquées pour lui à dessiner. Des animaux, des...
Oui, parce qu'en fait, je vais dessiner des éléments qui seront comptés par l'inspecteur Levedur lors de son enquête. Le but étant quand même qu'il y ait un lien entre le dessin et le scénario.
Sinon, ça n'a pas de sens.
Il n'y aurait aucun intérêt, je pense.
Ce serait bizarre.
Vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà répété comme ça?
Là, on l'a répété quelques fois pour ce soir, mais sinon, moi, je ne l'avais jamais fait en tout cas.
Moi non plus.
Donc ça sera une grande première.
Pour tous, ouais.
Claudie, c'est une vraie première pour vous?
D'écrire et de jouer.
De jouer ce qu'on a écrit devant des vrais gens.
Non, pas du tout. Décrire ce que je vais jouer non plus, c'est la deuxième fois. L'année dernière, avec la troupe avec laquelle je jouais, c'est déjà été. On a écrit à plusieurs mains, mais c'était déjà quelque chose que j'avais fait. Et puis le plaisir du défi aussi, hein, c'est. Je trouve ça. On y va et puis on voit ce que ça donne et les autres sont là aussi pour ajouter et compléter ce qui manque ou ce qui ou enlever ce qui est en trop, mais tout est un esprit d'équipe, rien ne se fait tout seul. Bah pour en tout cas pour cette aventure là, c'est je l'ai pas écrit en disant vous ne touchez pas un seul mot de ce que j'ai dit, je dis hein, j'écris la trame et puis à vous de compléter et de rajouter ou d'enlever et de vous approprier le texte et de voilà, c'était vraiment je pense que c'était vraiment une
Est-ce qu'elle a beaucoup changé l'histoire entre la première idée qu'on a eue avec ce personnage,
ouais,
et la représentation de ce soir, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Donc c'est quelque chose qui se mûrit, on en parle depuis 4 mois maintenant, je pense, à peu près.
À peu près.
Voilà.
Massimo, à part donc offrir aux gens une interprétation, pourquoi le théâtre ? Qu'est-ce qui vous attire dans le théâtre ?
Le théâtre, c'est la relation avec le public. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser et d'avoir une relation avec le public. Et pour moi, ça, c'est vraiment le théâtre, c'est rien sans le public. Donc voilà, c'est pour ça. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, dans le Bigarret, c'est assez petit. Donc on est confiné, c'est intime. Donc c'est très agréable de jouer ici, quoi. Enfin, je suis très pressé, en tout cas.
Et le public, c'est évidemment important, mais on joue pareil qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait 500, non ?
Mais une personne, c'est déjà un public.
Oui, c'est ce que je voulais entendre dire. Évidemment, j'ai vu quelques pièces de théâtre dans ma vie, et notamment dans des petites salles parisiennes où parfois on était tout seul sur le banc et on avait un peu de mal pour ceux qui jouent et qui, eux, n'en avaient pas du tout parce qu'ils jouaient.
Ouais, je comprends que quand on est sur scène et qu'il n'y a qu'une personne, c'est difficile à vivre, mais en soi, il faut tout donner quand même pour la seule personne qui est là.
En tout cas, ce soir, on aura l'assurance que le public sera quand même nombreux, puisqu'ils sont, ils sont déjà là et qu'ils n'oseront pas sortir après cette émission radio sans avoir vu cette pièce.
On est déjà pas mal.
C'est complet, hein.
C'est complet, oui.
C'est
puis
déjà
on,
complet.
On a fermé les portes.
Fermé.
On a fermé les portes à clé, me dit-on, de toute façon. Donc personne ne peut sortir. Dominique, Art Paper, c'est aussi une expo pour Brissac.
Oui, c'est une expo. Oui, on a utilisé les dessins du bouquin et puis on a fait des roll-ups qui présentent le projet, qui présentent sa biographie et puis un peu son œuvre en relation avec un peu l'histoire des États-Unis de l'époque, quoi, pour contextualiser un peu ce personnage. Voilà.
Et Dieu sait qu'on a besoin de contextualiser aujourd'hui.
Oui. Oui, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est emblématique de la période à laquelle il a vécu, quoi, parce qu'il vit quand même après la guerre. Il a son adolescence à la fin de la guerre de 45, il a été lui-même mobilisé à un moment. Voilà, enfin bon. Il a vécu la période hippie, si on peut dire, les années 70. Enfin, il a traversé une période de l'histoire américaine un peu agitée.
Claudie, trois mots pour définir l'inspecteur œuf dur. Allez, vous êtes deux, allez, on vous laisse le choix, un mot et demi chacun.
C'est.
So British.
So British version française quand même. Hein. À part la moustache, il a quand même la baguette sous le bras.
San Antonio qui rencontre Hercule Poirot, non, ça fait pas.
Hercule Poirot, oui, c'est sûr. San Antonio, moins, ça va être familial ce soir.
Inspecteur Clouseau, non plus.
Mais ça aurait pu être pas mal.
On va juste finir cette interview, Frédéric, en parlant de ces deux albums que je tiens là presque entre les mains. C'est quoi ?
Alors j'ai fait éditer deux livres aux éditions La Geste. Le premier album,
on va les faire passer dans le public peut-être.
S'appelle L'Anjou au fil du temps et c'est un cherche-et-trouve pour les enfants et les moins jeunes, cela dit, où l'on s'amuse à chercher des dizaines d'objets en suivant toute l'histoire de l'Anjou, de la création du château d'Angers
à aujourd'hui.
Et le deuxième ?
C'est un grand livre de coloriage à l'identique, un cherche-et-trouve, où là, ce sont de simples illustrations où on peut s'amuser à tout colorier.
Ah oui, c'est pour se reposer, pour se calmer.
Exactement.
D'accord. Eh bien, on va terminer cet entretien maintenant. Je vous rappelle nos invités, Claudie Le Turdu, Massimo Ross, Frédéric Brogard, pour une rencontre avec l'inspecteur Ovdur qui est juste après cette émission, et Dominique Delahaye pour Art Paper, et pour cette exposition et pour cette musique, tout
et
ça.
Et un spectacle à la salle du Mont-Rude à Saint-Saturnin-sur-Loire dimanche prochain à 16h.
Waouh, et on se quitte presque avec un morceau qui est donc...
Mais il est issu de la compilation, et ça s'appelle Brown Gold.
Let's go. remarques brèves. La tête en noir, le fanzine angevin consacré aux littératures policières et mené de main de maître par Jean-Paul Guéry, vient de faire paraître son numéro 203 et mon petit doigt me dit qu'il était à Brissac hier en 4. Enfin, je sais plus, j'arrive pas à faire le... D'accord. La revue l'indique, consacrée aux faits divers, est disponible. C'est une publication de l'association nantaise Fondue au Noir, elle aussi présente à Brissac. Nous avons une pensée plus particulière pour eux parce que la revue devait être lancée lors du Salon du Livre de Paris qui a été annulé en raison d'un certain coronavirus. Polarisez-vous, ça ne fait que commencer. Si l'ensemble du programme est à retrouver sur www.brissacloirobance.fr, nous avons Nolwenn à côté pour mettre les points sur les i et nous imposer d'aller voir. Vas-y, dis-nous donc.
Bah, bonsoir d'abord.
Bonsoir. Ça fait très alcoolique anonyme.
Bonsoir tout le monde et merci vraiment à toutes les personnes qui ont participé à l'émission derrière le micro et dans la salle. Voilà, c'était très agréable d'être ici dans une émission en décalé, mais bien quand même sur les traces du polar. Voilà. Donc oui, on a échangé avec Julien, on se demandait voilà ce qu'on allait valoriser parce que bon, effectivement, il y a beaucoup de choses dans les jours à venir. Donc j'ai juste parlé de trois dates. La première, c'est le vernissage de l'exposition Enquête de patrimoine qui aura lieu à Saint-Saturnin-sur-Loire le mercredi 11 mars à 17h. C'est une exposition qui permet de découvrir le patrimoine sous le regard d'une enquête policière autour d'un meurtre. Vraiment, c'est quelque chose qui est très sympa à faire en famille avec les enfants parce que c'est des petites choses qui se construisent. Je pense que des choses plus faciles pour les enfants et d'autres plus pour les adultes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le vendredi 13 mars, retrouvez Jouon à la salle des fêtes de Luigné autour d'animations en famille, là aussi, avec des enquêtes à mener tout au long de la soirée dès 18h. Et enfin, le 14 mars, à la salle du Ruau à Charcé-Saint-Hélier-sur-Aubance, un spectacle, là aussi, très décalé, avec du Super 8, du cinéma et de la musique en direct. Donc, quelque chose d'assez innovant, différent et en même temps très raccord avec tout ce qu'on aura organisé cette année dans l'édition 2.
Tout ça est bien beau, ma foi. On va pouvoir se régaler en allant voir tout ça. Eh ben, nous allons remercier chaleureusement avec Luc le Bigarré et le public qui était là pour nous entendre. Et nous serons au Soft de Vaucretien le jeudi 19 mars à 18h pour un nouvel enregistrement exceptionnel.
Cette région a des noms qui sont toujours décoiffants. Vaucretien.
La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Pour l'heure, un peu de douceur et de caresses métalliques. C'est le programme d'après sur Radio G. Bye bye, merci à vous.
Merci, merci. À très bientôt.
À bientôt. www.radio-g.fr